l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani, kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
You want the crops without the plow. You want the rain without the thunder. You want the ocean without the roar of its waters. Can't have the sun without the heat. Nothing that I say hasn't been said before. Nothing that I feel hasn't been felt before. These wounds are so old. These wounds are so old. These wounds are so old. These wounds. You want the crops without the plow. You want the rain without the thunder. You want the ocean without the roar of its waters. Can't have the sun without the heat.
Cet été, dans l'épopée, nous survolons les différents patrimoines afroplanétaires et cette semaine, nous allons écouter des voix caribéennes issues des Antilles, de Jamaïque ou d'Haïti. La chanteuse et banjoïste Leila Makala, qui a ouvert cette émission, est une artiste attentive à son environnement social et culturel. Ses lointaines racines haïtiennes la poussent à la vigilance quand les velléités coloniales ressurgissent sur la planète au XXIe siècle. En 2022, son album Breaking the Thermometer la plongeait dans l'histoire tourmentée de ses ancêtres.
Bon appétit, messieurs. Depuis quelques jours, il circule un étrange discours dans la ville et dans le pays. Discours dirigé contre les indépendants. On dit bien les indépendants et non les opposants. Subtil distinguo chargé de signification. Nos confrères de la presse officielle chantent, semble-t-il, depuis quelques jours, le même refrain à l'unisson. La presse indépendante dorénavant, c'est terminé. Fini. Kaba. Radio Nationale, à la Télévision Nationale, dans le quotidien officiel, on nous le dit sur tous les tons. Taisez-vous, messieurs, le bal est fini. Sous-entendu, pour les indépendants. Le bal, les victimes accumulées depuis quelques années dans nos rangs journalistes, avaient-ils été au bal? Un bal macabre.
Que venons-nous d'entendre, Leila Makala?
La voix de Jean-Dominique, un journaliste haïtien qui était le propriétaire de Radio Haïti en Terre et qui était assassiné dans l'année 2000.
Et donc, il était important de saluer sa mémoire?
Absolument. Mais ce n'est pas juste lui, c'est ses idées, son équipe. Et c'est vraiment à grâce de l'histoire de sa femme, Michèle Montas, qui était la co-directrice de la station de radio.
Que vous ont appris ces archives radio sur vos racines personnelles?
J'ai appris beaucoup dans les archives de Radio Haïti, des histoires, beaucoup de moments dans l'histoire haïtienne et aussi dans l'histoire de les journalistes qui travaillaient à Radio Haïti, beaucoup à l'intersection de la presse et la politique, et beaucoup des histoires de les exils, de les assassinations, de les détentions, et beaucoup de le pouvoir d'une histoire. Et ça, c'est le... comme j'ai trouvé le nom de l'album, parce que c'est Jean-Dominique qui a dit qu'il peut briser le thermomètre, mais ça ne marche pas pour cacher la fièvre.
Exactement.
Et pour moi, c'était quelque chose comme « Ah, j'aime cette idée ».
Leila Makala, on vous a découvert en France grâce au Carolina Chocolate Drops, un collectif de musiciens qui revitalisait les traditions folk américaines. On vous entend sur le titre Living Eden, vous êtes au violoncelle. Est-ce que ce groupe épousait vos préoccupations d'historienne?
Pour moi, c'était une éducation, faire la musique et la recherche en même temps. C'est vraiment mon... My passion.
Votre
to
passion.
Do both, to have my music be informed by things that I'm reading. I'm always getting inspired by things that I read, or and I'll say, oh, that sounds interesting. Let me see what that sounds like with music.
Donc en fait, votre passion, c'est de relier la musique et la littérature d'une certaine manière. Une phrase, un mot, une poésie peut vous inspirer pour la musique.
Oui.
Et puis juste après les Carolina Chocolate Drops, vous avez fait paraître votre premier album, Very Colored Songs, qui était un hommage à Lexton Hughes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était ce personnage essentiel?
Pour moi, Lexton Hughes était un homme, grande personnalité de mon enfance. Mes parents étaient fans de Lexton Hughes et j'ai parlé de son travail dans mon école. Pour moi, c'est Lexton Hughes qui... m'a donné ma voix avec la voix d'un écrivain qui était le poète laureate des États-Unis et qui était vraiment radical. Et vraiment, il y a des choses que tu peux trouver pour le reste de ta vie, si tu veux. Oui.
Leila Makala, vous vivez désormais à la Nouvelle-Orléans. Est-ce que cette ville cosmopolite vous ressemble?
Je pense que la ville de la Nouvelle-Orléans, c'est une place qui a donné moi beaucoup. C'est une ville vraiment généreuse et c'est comme un shelter.
Un refuge.
Un refuge pour moi. Après New York City, c'était plus calmant. J'ai connecté avec les gens, avec l'histoire, avec la terre. Avec la nourriture, le mode de vie, c'est moins « allez, 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 allez ». Je peux écouter les sons qui arrivent dans ma tête. Ça donne moi l'espace de créer ma musique, mais aussi ma vie. Mais je pense que si j'ai resté à New York City, ça va être un très différent chemin.
Alors qu'à la Nouvelle-Orléans, vous êtes en paix avec vous-même.
Oui, c'est une place très spirituelle pour moi. Il y a des fois que je pense, oh, il y a trop de capitalisme, trop de violence, trop d'industrie qui est un désastre pour l'écologie. Mais les gens, l'esprit des gens, c'est quelque chose qui est irreplaceable.
Qu'on ne peut pas remplacer.
Il y a beaucoup de beaux villes, des places spirituelles du monde, mais New Orleans, c'est une place qui vraiment a appelé moi. Oui.
Survive, Leila Makala, extrait de son dernier album en date intitulé Sun Without the Heat. Restons encore un moment en Haïti et remontons encore plus loin dans le temps. Le saxophoniste montréalais d'origine haïtienne, Joey Homicile, a fait paraître l'été dernier un album audacieux qui nous ramène à la fin du XVIIIe siècle, quand Toussaint Louverture bataillait pour obtenir l'indépendance d'une terre trop longtemps colonisée. Cela se passait en 1791.
1791, Bois Caïman, Haïti. On se trouve sur la terre de mes ancêtres, marquée de plusieurs affronts, marquée de meurtres et de sang, et aussi de viol, pour ne pas dire de toutes sortes de trucs qu'on n'aimerait pas revivre, mais qu'on a dû vivre pour pouvoir accéder à ce port qu'on appelle le port de la liberté. Et pour ce faire, il y a eu des Capois-Lamor, des Jean-Jacques Dessalines, des Toussaint Louverture, des Général Pétion, ainsi de suite, qui nous ont inspirés dans cette embuscade pour pouvoir arriver à vaincre, à l'époque, l'empire colonial qui s'étalait de l'Espagne, de l'Angleterre, sans oublier la France, qui opprimait le peuple noir à l'époque localisé sur la terre d'Haïti. Alors, pour ce faire, ces ouvriers se sont mis ensemble, ils se sont unis sous un seul drapeau, à l'époque le rouge et le noir d'Haïti, pour pouvoir vaincre cette oppression des esclavagistes et des colons qui les opprimaient sur leur terre ancestrale. Tout ceci est parti du 1791 Bois Caïman, Haïti.
Sur la commune de Morne-Rouge.
C'est un résumé bref que j'ai fait, mais en même temps, il est tout en profondeur parce qu'il ne faut jamais oublier, Joe, une insurrection, une révolte qui s'étale sur 12 ans, ce n'est pas peu, quoi.
Est-ce que c'est l'acte fondateur de l'indépendance d'Haïti qui sera célébré le 1er janvier 1804?
Le 1er janvier 1804, il ne faut jamais oublier que c'est la bataille qui s'est terminée en 1803, en novembre, qui se célèbre en 1804, en janvier. Et puis, on a associé à l'indépendance d'Haïti qu'ils avaient obtenue en novembre 1803. C'est le début et en même temps, c'est la porte de la liberté parce que c'est à partir de ce moment-là que les Haïtiens, au fait, les Africains, il ne faut jamais oublier que c'est le peuple qui a voyagé en bateau, qui s'est rendu au paradis, qui a atterri en Haïti. Alors, les Haïtiens vont à leur tour prêter main forte au Pérou, au Chili, au Venezuela, aux États-Unis, au Panama, au Maroc, eux-mêmes, à leur tour, obtenir leur passeport de liberté.
Alors, prenons Blue Cotton.
Yes.
Que racontez-vous à travers ce titre ?
Blue Cotton, c'est un extrait qui nous amène dans les champs des esclaves, dans les champs ancestrales où nos ancêtres récoltaient la soie, récoltaient le coton pour fabriquer, pour pouvoir travailler et pour pouvoir survivre à coup de fouet. Et la connexion avec le bleu et la terre, qui est le coton, c'est justement ce trait d'union avec le ciel et la terre, justement. La terre et le ciel, c'est un trait d'union qui nous fait voyager de toutes sortes de manières. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le bleu, c'est le blues aussi. Alors, il y a le blues là-dedans, le trait d'union vers l'éternité, vers l'élévation. Et c'est vraiment un aspect spirituel que j'ai voulu marquer juste avec le titre en disant « Blue Cotton » parce que même le « chant pip, Peo, Swebidea, Lebzea, tu te sens comme t'es, Jebdoa, I'm in the cotton field. » Tu vois, on arrive dans les champs de coton et ça m'a rappelé ces événements que je n'ai pas vécu, mais que j'ai lu.
Et que vous ressentez en vous.
Oui, définitivement. C'est la sensation qui nous a permis justement de véhiculer ce message.
Voici donc cette évocation d'un lointain destin haïtien par Joey Homicile et ses musiciens.
With the dead, the dog, the dog.
Certes, la musique de cet album Bois Caïman Freedom Suite mérite une attention particulière et une mise en contexte certaine, mais lorsque vous aurez apprivoisé cette œuvre libre et insoumise, peut-être entendrez-vous l'intention spirituelle et patrimoniale de ces notes de musique échappées d'un esprit vif et frondeur. Il faut croire que l'engagement citoyen est une caractéristique des peuples caribéens, confrontés depuis des siècles à des soubresauts géopolitiques qui ont façonné leur identité métisse revendiquée. Le pianiste Monty Alexander a toujours fait jaillir la source jamaïcaine de son être dans son répertoire. La figure d'Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie et symbole de résistance au colonialisme pour la diaspora africaine dans le monde, continue de l'inspirer au point de reprendre ses mots dans son dernier album D-Day.
Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. Mais c'est war.
Tant que nous continuerons à penser qu'un être est supérieur à un autre, tant que ce mode de réflexion n'est pas discrédité ni abandonné, il y aura la guerre. Pour vous, les guerres ne sont pas économiques, territoriales ou politiques. Elles sont le fruit pourri du racisme.
It's everything, man. It's like people not liking the other philosophy, the other religion. They can't forgive terrible things that happened, including you're different, you have a different color. See, I come from Jamaica. We have a motto, out of many, one people. We're mixed. There's a lot of people, African, European, Chinese, you know, and in my own family is a mixture, you know. We're proud of this. I call it wondrous variety, you see. And when we have wars, you can't explain it because I'm no expert. I'm just a peacemaker guy. When I play the piano, I'm looking for peace, for people to smile and let's say we can be friends, like when we were children. So we have to restraint at all costs to prevent the violence, you know? And right now, people are suffering badly, you know?
Les guerres viennent de partout et pour de multiples raisons. Les guerres, ça peut être des guerres de religion, ça peut être des guerres philosophiques, ça peut être des guerres liées à la couleur de la peau. Vous savez, moi je suis Jamaïcain et je suis issu d'une famille mixte. En Jamaïque, il y a toujours ce dicton « one people », un seul peuple. En Jamaïque, vous pouvez avoir des racines africaines, des racines européennes, des racines chinoises. Vous avez de tout en Jamaïque. Et c'est ça qu'il faut porter. C'est ça le plus important. Et moi, je suis un peacemaker. C'est-à-dire, je veux provoquer des moments de paix. Comme un enfant, les enfants entre eux ne se posent pas la question. Eh bien, je veux retrouver cette âme d'enfant. Je veux que quand je joue une mélodie, ça fasse du bien aux gens qui nous écoutent. Voilà ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de ramener toujours les gens vers la paix parce que avec ce que nous vivons aujourd'hui, on se dit qu'il est important que nous ayons tous un rôle à jouer pour faire que la paix existe toujours aujourd'hui en 2024. Monty Alexander, votre engagement discret et efficace me rappelle un autre personnage bien connu que vous avez fréquenté pendant de longues années. Je parle d'Harry Belafonte. J'aimerais savoir quand vous vous êtes rencontrés et ce qu'il vous a apporté.
When I was growing up in Jamaica, even in the middle 50s, 1950s, Harry was a hero for all the Jamaicans. This handsome man who had a nice voice, vocal voice, singing the calypso songs. He was also acting in the cinema. And everything he did was magic. He was great. The women loved him. My mother had a crush on Harry. That's how handsome. And one day I met him in person. And from that day, he started calling me cousin. Hey, cousin. I said, I'm not your cousin. He says, yeah, I'm calling you my cousin. We're like connected, right? And it was only about 1 month ago that I attended the celebration of his life because he died at the age of 96. Mm. And there was a big celebration in New York. And I was invited. And I really thought of him as the first Jamaica hero. And this is before Bob Marley came along. Yeah. You know, he put them Jamaica. We heard, this is my island in the sun where my people have toiled since time begun. And he's putting these songs that speak about the culture in the islands, you know. And he became like an ambassador for Jamaica, right? But he's an American. He's an American-Jamaican. And we were proud of him. And then his commitment to civil rights came into his life. And this is the man who encouraged Dr. Martin Luther King to go and convince the President of the United States, Robert Kennedy, the brother, to start respecting the African-American environment. And he more, and he gave his life, even though he entertained for a while. I love that man, and he seemed to like me.
Harry Belafonte, c'est vraiment quelqu'un que j'aimais profondément. Vous savez, dans les années 50, en Jamaïque, Harry Belafonte, c'était vraiment un héros à l'époque. On adorait sa voix, on adorait son calypso, on adorait l'acteur. Ma mère était totalement amoureuse de Harry Belafonte. Et moi, quand il me voyait, il m'appelait cousin. Il me disait « Hey, cousin !» Alors je disais « Mais je ne suis pas ton cousin. »« Si, si, je vais t'appeler cousin. » C'est un personnage que j'aimais profondément, qui m'a suivi toute ma vie. Je me rappelle quand il chantait « Island in the Sun », c'était quelque chose de particulier. C'était un ambassadeur, finalement. Et il a réussi à convaincre Martin Luther King de se battre pour les droits civiques. Là, je suis obligé de m'interrompre. Monty Alexander, pendant ma traduction, nous montre une photo de lui et de Harry Belafonte ensemble. À la fin de votre nouvel album, il y a ce petit clin d'œil à votre ami disparu.
Did the light tell me wanna go home? I work all night and I drink a rum. Hey! Mr. Belafonte gave us his song. Hey! Mr. Day, Mr. Day, Mr. Day, oh, answer. Answer this one. Did the light tell me wanna go home? We're gonna go home now, ladies and gentlemen. Thank you very much. It's a pleasure.
Enregistré à la Salle Gaveau à Paris en octobre 2023, c'était un clin d'œil de Monty Alexander à son ami Harry Belafonte, disparu 6 mois plus tôt. Un artiste essentiel dans la lutte du peuple noir pour l'égalité et la justice à l'échelle planétaire. On se souvient notamment de ses efforts pour chaperonner la jeune Myriam Makeba durant son exil aux États-Unis au cœur des années 60. Intéressons-nous maintenant au patrimoine antillais. Le pianiste Georges Granville, auteur d'un très bel album intitulé Perspective, réalisé avec le batteur Arnaud Dolmen et le bassiste Michel Alibaud, est aussi un pédagogue des musiques caribéennes. Avec son homologue Thierry Vaton, il a fait paraître plusieurs ouvrages d'initiation aux musiques créoles, le Bélé de Martinique comme le Groca de Guadeloupe, dont il nous parle avec son ami rythmicien Arnaud Dolmen.
L'idée, c'est déjà la transmission. Elle est venue de manière très simple. Je donnais des cours de piano il y a quelques années de ça. Et je me rappelle que j'allais à la grande médiathèque des Halles chercher des livres de partitions pour les élèves, etc. Et je trouvais des choses même de la Caraïbe, Jamaïque, etc. Et je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a rien sur la Martinique, Guadeloupe. Il y avait vraiment une lacune à ce niveau-là. Et un jour, en parlant avec Thierry, je lui dis, mais c'est dommage, ça aurait été bien qu'on fasse des ouvrages pour nous mettre en valeur. Et il me dit, mais moi, j'ai cette idée-là depuis très longtemps. Et on s'est dit, allons-y. On fait ça tous les deux ensemble. Et ça a donné un premier ouvrage qui s'appelle « Le piano dans la musique créole », qui recense un peu les rythmiques des Antilles jouées au piano. Et puis, on a continué sur le créole jazz, sur les classiques de Noël. Et c'est pas fini. J'en dis pas plus, mais voilà, ça va arriver.
Ce sont des ouvrages réservés à des musiciens d'abord ?
Oui, quand même à des musiciens, parce qu'il y a des portées, il y a des explications musicales, c'est vraiment technique. Alors, quand je dis technique, on n'a pas forcément besoin d'avoir un niveau de fin d'études de conservatoire, mais un minimum quand même de pratique. Voilà.
Donc, je n'y comprendrai rien.
Il faut savoir qu'il y a des non-musiciens qui ont acheté l'ouvrage, le premier surtout, en disant que c'est un ouvrage à avoir parce qu'il y avait quand même des parties, même si on n'est pas parti dans un élan historique à retracer les carrières, mais par exemple, on a mis en avant certains pianistes. On a parlé de Marius Gulci, bien sûr, etc., mais aussi de Chico Gelman, moins connu, Daniel Marie Alfonsine. On a mis tous ces musiciens en valeur dans un des chapitres du livre et il y a des gens qui ont acheté pour aussi avoir ça. C'est un ouvrage quand même intéressant, même quand on n'est pas musicien.
Est-ce que connaître l'histoire ancestrale des Antilles est une exigence pour jouer les musiques caribéennes ?
La connaître, comme j'aime à dire, c'est surtout une transmission par atavisme, en fait, quelque part. Nos parents ont écouté, mais avant, les parents ont écouté. ont transmis. Donc c'est un héritage qui se transmet tellement naturellement. Personnellement, je n'ai pas fait de recherche, sauf pour écrire finalement le livre. Mais auparavant, je jouais, et c'est quelque chose d'assez inné, instinctif, parce qu'on baigne dedans. Alors c'est vrai que c'est aussi le fait d'avoir vécu et grandi aux Antilles, parce que quand on vit hors du territoire, on perd quand même... Je le vis avec mon fils, qui a 23 ans, mais qui a toujours vécu ici et qui n'a pas le même ancrage. Voilà.
Est-ce que vous pensez avoir un avantage culturel du fait de la créolité de votre jeu ? En d'autres mots, être le fruit métisse de plusieurs cultures facilite vos échanges avec d'autres musiciens ? Arnaud Dolmen ?
Non, en fait, moi, ce que je pense, c'est que le fait d'avoir grandi dans le bassin caribéen, donc pour moi, pour la Guadeloupe, c'est quelque chose, je pense, hein, dans le monde, quelque chose un peu d'unique, parce qu'on a nos musiques traditionnelles, et comme j'aime à dire, par exemple, pour la Guadeloupe, il y a des musiques, il n'y a pas qu'une seule musique, il y a la musique traditionnelle, le grouka, il y a la musique populaire, le zouk, dans toutes ces musiques, il y a des dérivés, il y a le grouka moderne, il y a le quadrille, et il y a plein de musiques aussi que je ne connais pas, qui se perdent aussi dans les campagnes. Et après, on a cette culture du carnaval aussi, le fait d'écouter beaucoup de musique venue de différents endroits, alors des îles de la Caraïbe, mais des musiques internationales. Donc ça nous donne quand même un bagage naturel, en fait. Une culture musicale qu'on a naturellement, sans pour autant aller dans des conservatoires et compagnie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très riche. Après, dire... d'avoir un avantage, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous donne une ouverture d'esprit à la base, en fait.
NJ, T comme Thierry Vaton et G comme Georges Granville, l'association de deux musiciens antillais de grande valeur. C'est sur ces notes inspirées des traditions caribéennes que nous allons nous quitter. Merci à Nathalie Laporte qui rythme à la baguette en régie finale ces émissions patrimoniales et estivales. Nous poursuivrons cette collection d'épopées thématiques la semaine prochaine avec un regard africain sur la force expressive de la musique. D'ici là, allez voir les artistes sur scène et par exemple Alice Russell, Makaya McCraven ou Tinari Wen au programme du festival Jazz à la Villette à Paris à partir du 29 août. Et si vous voulez réécouter cette émission, n'oubliez pas l'application RFI Pure Radio, vous aurez tous nos magazines dans l'oreille. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.